France Inter, le 18-20.
C'est Paris qui a lancé la bataille avec une rue de Rivoli désormais à partager entre cyclistes et automobilistes. Ça fait 3 jours que les Parisiens la testent vraiment puisque tout le monde rentre de vacances. La rentrée scolaire changera peut-être un peu l'histoire. Mais la vraie question au fond, c'est qu'après des années à faire de la place pour la voiture, voilà qu'on les prie de se ranger. Paris n'est pas une exception. Parfois ça se passe mal, mais parfois non. Est-ce que nous allons devoir tous nous mettre au vélo? Est-ce que les modes de circulation alternatifs sont là pour aider les accros à lâcher leur volant? Est-ce qu'on parle d'urbanisme, de pollution, de prix de l'immobilier? Pourquoi pas dans certains quartiers vider des voitures? Cyclistes, automobilistes, piétons, skateurs ou autres, la ville vous appartient, le téléphone sonne aussi et on vous attend.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Et Erel, très joli prénom Erel, c'est vous qui avez la parole. Vous êtes la bienvenue sur France Inter. Bonsoir.
Oui, bonsoir. J'habite en banlieue et j'adorerais venir à vélo à mon travail. Mais aujourd'hui, je ne peux pas le faire parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas mettre mon vélo dans le train. Sauf à partir de 9h30 et ce jusqu'à 16h30. Donc ça voudrait dire que soit je commence après 9h30 mon travail et que je rentre avant 16h30.
Et Irène, en toute objectivité, vous auriez la place de mettre votre vélo dans le train aux heures de pointe le matin et le soir?
Alors, non, justement. Mais en toute objectivité aussi, ça a été pensé dans d'autres villes comme à Copenhague où il y a des wagons pour les usagers de vélo. Donc voilà.
Et merci.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, du coup, malheureusement, comme ce n'est pas réfléchi, c'est pas une mesure qui a été réfléchie, c'est vrai que du coup, je continuerai à prendre ma voiture et c'est dommage.
Merci beaucoup pour votre question, Erel. Pour vous répondre, au téléphone sonne ce soir Christophe Najdowski, vous êtes maire adjoint de Paris en charge des transports et de l'espace public, Olivier Schneider, président de la Fédération des usagers de la bicyclette, et Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. C'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'on est un petit peu dans les choses à moitié, en fait. Peut-être que c'est vous, Olivier Schneider, qui avez envie de répondre à Erel. Est-ce qu'il y en a beaucoup des gens qui aimeraient être en vélo boulot et qui se retrouvent uniquement en vélo loisir parce qu'on peut pas emmener le vélo jusqu'à la ville?
Alors, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, en effet.
Énormément
de Français souhaiteraient se mettre au vélo, mais en effet, comme l'a indiqué l'auditrice, souvent les conditions ne sont pas réunies. Et donc, la position de ma fédération, c'est pas uniquement de défendre l'intérêt de ceux qui font du vélo, mais de tout faire pour mettre l'outil vélo déplacement à portée de tous. Et donc, si changer le matériel roulant, les trains, c'est difficile, coûteux et ça met du temps. Ce qui peut être imaginé pour aider des auditeurs comme elle, c'est de mettre en place du stationnement sécurisé vélo dans les gares, en amont et en aval. Et donc, ça permet soit d'utiliser un second vélo à l'arrivée, soit utiliser un service de vélo en libre-service.
Christophe Najdowski, est-ce qu'on connaît le rapport à Paris, par exemple, dans une grande ville comme ça, du vélo loisir et du vélo boulot? Parce que ce n'est pas la même utilisation, y compris même pas la même utilisation des mêmes axes et aux mêmes heures. On la connaît, cette proportion, ou pas?
C'est difficile à dire, mais ce qu'on voit à propos du vélo, c'est clairement, par exemple, si vous prenez l'utilisation du Vélib, c'est clairement une utilisation pour les déplacements boulot. Mmh. Oui. On voit les pics de fréquentation le matin, c'est-à-dire au même moment que les pics de fréquentation qu'on peut observer dans le métro ou chez les usagers de la route, et pareil le soir, donc avec évidemment un étalement. Mais c'est très clairement donc lié au déplacement domicile-travail. Donc c'est un outil de déplacement du quotidien pour aller travailler.
Est-ce que le chiffre de son augmentation l'année dernière, par exemple, dans une ville comme la nôtre, comme Paris, ça représente à peu près quoi?
Écoutez, on a eu une augmentation de près de 20% en réalité sur une année, malgré, le peu d'aménagement, puisqu'on nous a reproché qu'on avait relativement peu d'aménagement nouveau, mais il y a une vraie appétence, on va dire, pour les déplacements à vélo, notamment chez les jeunes générations.
Voilà, une ville comme la nôtre, pardon pour le parisianisme, et du coup, pour me faire pardonner, Denis, vous habitez à Nantes et c'est vous qu'on écoute, soyez le bienvenu.
Bonjour, je vous remercie de recueillir mon témoignage.
Allez-y.
Donc moi j'ai appelé un petit peu pour en tant que cyclotrafeur, donc je me déplace tous les jours à vélo, je fais entre 15 et 30 km par jour, et j'avais surtout deux réflexions. C'était la première, c'était les aménagements qui n'étaient pas toujours adaptés au vélo. Par exemple, les voitures vont aller tout droit, et nous en tant que cycliste, on devrait prendre un petit chemin bucolique, se balader, on n'est pas là pour ça. Et une deuxième témoignage, c'est par rapport à l'éducation de tous les usagers, aussi bien cyclistes que voitures que piétons. Que tout le monde se rende compte que la voie, elle est faite pour tout le monde et que les règles sont faites pour tout le monde pour que ça se passe dans le meilleur des mondes. ce que les gens ne comprennent pas et que ça énerve et que ça énerve tout le monde. Donc voilà un petit peu mon témoignage.
Merci Denis pour votre témoignage et votre question. Tiens, Yves Cara, le porte-parole de l'association de l'Automobile Club. Je vous entendais réagir, je vous entendais faire oui de la tête. Oui, il y a un problème d'incivilité de part et d'autre. Il y a un problème d'éducation à la route, peut-être, y compris de la part des vélos.
Oui, non, mais la première chose que l'on partage est depuis toujours, hein, depuis des siècles, que ce soit à cheval ou en hippomobile ou en automobile ou en électromobilité, c'est la route. Et c'est vrai que si on fait preuve de bienveillance et de courtoisie sur la route, qui que ce soit, hein, automobiliste, moi, dans une semaine, j'utilise la voiture, le deux roues, je suis à Bonnet-Vélib', la marche et les transports en commun, et j'ai une trottinette électrique. Vous voyez, donc j'y touche, j'ai la totale. Donc effectivement, quel que soit le moyen de locomotion que l'on utilise, que l'on soit en situation de danger lorsqu'on n'est pas en voiture parce qu'on est plus fragile, on doit être courtois. Quand on gêne une voiture, qu'on est en vélo, on doit aussi faire un petit geste en le remerciant. Et quand on est en voiture, se rendre compte qu'effectivement, entre 30, 40 ou 50 km/h, c'est pas du tout la même dangerosité si on perd un piéton. Donc oui, il faut que tout le monde puisse, dans la ville, utiliser tous les moyens de locomotion, dans la voiture.
Que tout le monde soit civil, évidemment, sans elle comprend. Est-ce qu'il faut éduquer mieux à la route? Est-ce qu'on doit songer, par exemple, question pour vous, Olivier Schneider, est-ce qu'on doit mettre le code de la route, par exemple, à disposition des cyclistes? Est-ce qu'ils devraient le passer aussi? Est-ce qu'il devrait y avoir un test de ce genre-là? Puisqu'on augmente le nombre de cyclistes dans la ville, est-ce qu'on doit aussi en passer par là? Et pourquoi pas, après tout?
Alors, aller jusqu'à un permis vélo, je pense que c'est pas possible, ne serait-ce que pour les conventions internationales. Mais
non, le code, simplement. Pas le permis de pédaler, mais le code.
Non, mais bien sûr. Mais globalement, ce pourquoi milite ma fédération, c'est pour systématiser l'apprentissage de la mobilité à vélo dans le cadre de l'école primaire, pour que tous les enfants entrent au collège en sachant faire du vélo, et pour rajouter une initiation, peut-être de manière facultative, une heure... dans le cadre du permis de conduire, aussi pour que les futurs automobilistes comprennent bien que quand ils doublent un peu trop près, ben c'est, même si ce n'est pas forcément toujours à l'origine d'un accident, c'est très stressant et désagréable. Et je pense qu'en effet, la notion de bienveillance et de chacun avoir été à la place de l'autre est très importante pour améliorer la sécurité.
Alors vous savez, pardon, mais à l'Automobile Club Association, on organise justement, on en a parlé avec Olivier Schneider, Olivier Schneider, c'est ça, pardon. On organise des stages justement pour apprendre à utiliser le vélo, mais aussi le vélo électrique, parce qu'on a une vitesse qui est quand même supérieure à ce qu'on peut faire sans assistance électrique. Et on a beaucoup de personnes, ça marche très très bien, et pas que des seniors.
Et si je vous pose la question, c'est parce que là j'ai des chiffres sous les yeux, je vois qu'il y a eu 159 cyclistes tués en 2016, je vois que le nombre d'accidents augmente, mais je vois aussi, et c'est pour ça que je vous renvoie un peu dos à dos l'un l'autre, que 45% des responsables d'accidents de vélo sont en fait les vélos eux-mêmes. Donc c'est en ça que peut-être il y a un peu de travail à faire aussi dans la direction des cyclistes. Donc qu'est-ce que vous en dites, Olivier Schneider?
Bien sûr que tout le monde doit respecter les règles et aussi faire preuve de bienveillance. Ce n'est pas parce que j'ai priorité que je vais foncer et ensuite reporter la responsabilité sur l'autre parce que d'après tel article, j'avais priorité. Bon, les 45%, c'est toujours très compliqué sur les PV d'accident de savoir vraiment... je pense que c'est pas le débat ici, mais en effet, il faut que tout le monde prenne... Si tout le monde améliore sa conduite, c'est sûr, il y aura moins d'accidents. Ah bah, après, sur la hausse, certes, il faut regarder vraiment sur 10, 15, 20 ans. Là, il y a une hausse conjoncturelle sur un an, mais globalement, sur 10 ans, ça a baissé de plus de 50%.
Tiens, Christophe Najdowski, il y a une question pour vous, et c'est celle de Jean-Noël. Elle vous est directement dirigée. Bonsoir, Jean-Noël. Merci de nous appeler. Bienvenue sur France Inter. On vous écoute.
Moi, c'est tout à vous. Oui, je voudrais poser une question au représentant de la mairie de Paris.
Qui vous écoute.
Qui m'écoute, et à Madame Hidalgo par la même occasion.
Qui vous écoute peut-être, allez savoir.
Il y a un discours que je respecte sur anti-pollution qui consiste à dire qu'il y a trop de voitures à Paris, les enfants ont des problèmes pulmonaires, etc. Donc il faut absolument se débarrasser de toutes ces sources de CO2, etc. Alors, on pourrait aussi se dire que ce discours englobe la voiture électrique, parce que quand on a une voiture électrique, fondamentalement, on n'a aucun avantage particulier dans Paris. On a les mêmes embouteillages, on a les mêmes problèmes de circulation. Donc moi j'ai le sentiment qu'on est passé d'un discours anti-voiture, enfin anti-pollution, à un discours anti-voiture, alors qu'il y a des pays qui donne des avantages considérables à tous les gens qui ont des voitures électriques. Et l'enjeu de la France, c'est de basculer dans la voiture électrique. C'est pas, comment dirais-je, de basculer dans le vélo. Donc, je trouve que là, on est passé d'un discours anti-pollution à un discours anti-voiture. Et moi, j'ai récemment failli acheter une voiture électrique et je me suis dit, mais ça va apporter quoi? J'aurai les mêmes difficultés que, avec une voiture non électrique quand j'essaye d'aller sur les quais de Paris ou de prendre la haute Rivoli. Donc là, je ne vois pas pourquoi la mairie de Paris, fondamentalement, ne subventionne pas les voitures électriques.
Christophe Natowski, votre réponse.
Alors, on peut faire à la fois la promotion de la mobilité électrique et aussi de la mobilité à vélo. Donc les deux ne sont pas antinomiques. D'abord.
Mais là, sur la voiture électrique, précisément.
Il y a un avantage qui est donné par la ville de Paris aux voitures électriques, c'est la gratuité du stationnement, ce qui n'est pas quand même un petit avantage à Paris. Donc si vous êtes parisien, vous n'avez pas à payer de stationnement résidentiel. Et puis, si vous êtes visiteur, vous n'avez pas à payer le tarif du stationnement rotatif, qui, comme tout le monde le sait, est relativement élevé. Donc, c'est quand même déjà un avantage non négligeable.
Jean-Noël faisait allusion à nos voisins. En Suède, par exemple, une voiture électrique a le droit au couloir de bus, ce qui décongestionne le reste de la chaussée et qui permet aux cyclistes, du coup, de mieux circuler également.
Le problème, c'est que ça a des effets pervers dans la mesure où ça ralentit la circulation des bus et donc ça les rend moins attractifs et moins intéressants. Donc c'est quelque chose qui, malheureusement, va à l'encontre du transport public. Par ailleurs, les couloirs de bus aujourd'hui, ils sont accessibles aux vélos. Et le problème que l'on a, c'est le différentiel de vitesse entre les vélos qui utilisent ces couloirs de bus et les autres véhicules. Alors, dans les couloirs de bus, on a des chauffeurs, des machinistes d'autobus et aussi des conducteurs de taxi qui sont autorisés à circuler, qui sont des professionnels et donc qui savent aussi, je dirais, gérer ces situations et ces conflits potentiels. Si on devait ajouter des véhicules électriques dans les couloirs de bus, ça entraînerait à la fois de la congestion mauvaise pour les taxis et mauvaise pour les bus et des risques aussi de conflits avec les cyclistes. Donc on n'y est pas favorable.
Ce qu'on peut peut-être faire dans les couloirs de bus, c'est permettre à tous ceux qui ont une mobilité, une électromobilité, alors avec des vélos électriques, avec des trottinettes, avec des monoroues, peut-être de les emprunter. Ce serait peut-être moins dangereux sur les trottoirs et au moins ça vous obligerait pas à faire une voie de plus et à chasser encore plus les voitures de la ville.
Ça ferait beaucoup de choses très hétéroclites.
Ce que vous évoquez là, c'est effectivement la question qui ne concerne pas d'ailleurs que les couloirs de bus, mais qui concerne
aussi les trottoirs d'ailleurs.
Aussi les trottoirs.
Oui, tout à fait.
C'est la question de ce nouveau mode de déplacement que sont les monoroues, les trottinettes électriques qui aujourd'hui malheureusement n'ont pas de. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est au législateur, au niveau national, de définir un statut à ces véhicules. Est-ce que ce sont des véhicules qui sont autorisés, oui ou non, à utiliser la chaussée, dans quelle proportion?
Il y a un flou juridique.
Et tant qu'on a ce flou juridique, nous, on ne peut pas prendre de décision.
Olivier Schneider, vous verriez d'un bon oeil quelqu'un d'autre que les bus et les vélos dans les couloirs de bus, ou vous vous dites, oh là là, alors si on démarre comme ça, on n'est pas sorti?
Tout dépend si c'est le seul aménagement. Si on ne fait qu'autoriser les cyclistes sur le couloir de bus, pourquoi pas? Si c'est le seul aménagement à disposition des cyclistes qui sont obligés déjà de suivre les bus diesel, d'être doublés par les taxis. Si en plus, il y a, comme le disait M. Najdowski, des non-professionnels qui ont fait le choix de s'équiper, ce qui est globalement une bonne chose, en voiture électrique, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes que ça n'incitera pas à prendre le vélo. Et juste pour rebondir sur le propos de votre auditeur, pourquoi est-ce que la France a besoin de développer le vélo et la marche, parce qu'on est à l'aube d'une pandémie de tout un tas de maladies dues non seulement à la pollution, c'est les perturbateurs endocriniens, etc., mais aussi au mode de vie, c'est-à-dire que l'Organisation mondiale de la santé nous alerte que si les jeunes Français n'ont pas une heure d'activité physique par jour, si tous les autres n'ont pas une demi-heure, c'est pas que l'obésité à laquelle on pense spontanément, mais c'est tout un tas d'autres maladies.
C'est vrai, pardon, mais on parle beaucoup de la voiture pour la pollution dans les villes, mais elle est responsable de moins de 30% de la pollution. Il ne faut pas oublier les 70% sur lesquels on n'agit pas aujourd'hui.
Ce n'est pas le cas à Paris. À Paris, la moitié des émissions d'oxyde d'azote, quand je dis la moitié, pardon, c'est pour les particules fines. Particules fines, environ 55% des émissions de particules fines sont dues au trafic routier. Alors, trafic routier, c'est pas que la voiture,
c'est tout le
trafic routier.
Et c'est les chantiers compris, parce que les engins de chantier...
Non, je parle du trafic routier.
Ne sont pas soumis
à... Les deux tiers des émissions d'oxyde d'azote, qui est un autre polluant local qui est très toxique, sont aussi dues au trafic routier et notamment aux véhicules diesel qui émettent très fortement ces oxydes d'azote.
Ça, les véhicules diesel qui ont été fortement...
Paris, c'est vraiment le trafic routier qui est le principal source des polluants locaux.
Ce qui est un autre débat...
Dans les études.
Ce sont les chiffres Air Paris, monsieur.
Non.
Chiffres Air Paris.
Au sujet du vélo, moi, je voudrais justement rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'au final, si on est en train de mettre des pistes cyclables un peu partout, et notamment à Paris, mais pas seulement, au final, c'est pour quelle raison, en fait? Est-ce que vous nous parlez uniquement de pollution? Est-ce que vous nous parlez d'aménagement urbain? Est-ce que vous nous parlez de moins de bruit? Est-ce que vous nous parlez de requalification des quartiers? Est-ce que la raison pour laquelle, à chaque fois, c'est très mélodramatique, ces histoires de vélo et voiture, c'est pas que, au final, on ne connaît pas la vraie raison? En fait. Bon,
c'est alors peut-être tout, c'est un à, peu la tout fois, à la fois capitaine. De ce que vous avez dit, mais c'est aussi la question de la capacité de la voirie et de l'espace public à pouvoir transporter des gens. Par le passé, on a souvent pensé les villes comme devant essayer de transporter un maximum de véhicules. Or, aujourd'hui, on voit bien que ce modèle-là, mm-hmm. il a mené à de la congestion et à de la pollution. Aujourd'hui, notre défi, c'est non plus de transporter davantage de véhicules, mais de transporter davantage de personnes. Autrement dit, faire en sorte qu'il y ait du report vers les modes plus capacitaires que sont les bus, les tramways, le métro, ou bien de faire en sorte qu'on améliore le taux d'occupation des véhicules. C'est-à-dire faire du covoiturage urbain, ce qu'on appelle le court voiturage, faire de l'autopartage, donc, c'est-à-dire avoir un taux d'occupation plus important des voitures. Le taux d'occupation, aujourd'hui, il est de 1,2 personnes en moyenne par voiture. Mmh. Vous avez 80% des gens qui circulent en voiture qui sont seuls dans leur véhicule. C'est ça qui produit de la congestion. Si on avait ne serait-ce que 1,7 personnes, ce sont des études qui ont été faites au niveau de l'Île-de-France,
on n'aurait plus
ou quasiment plus de problèmes de bouchons si on avait ce ratio de personnes par voiture. Donc l'enjeu, il est là, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait un meilleur taux d'occupation des véhicules. Et ça permettra aussi de faire en sorte que l'on affecte l'espace public aussi à d'autres usages, comme le vélo, par exemple, qui doit aussi pouvoir prendre sa place, parce que le vélo, il peut répondre à beaucoup de demandes de déplacement jusqu'à 10 km. C'est un mode de déplacement qui est non polluant, qui est très bon pour la santé, qui est économique, qui a beaucoup d'avantages, oui. Et qui est typiquement
Si je peux me permettre, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire que je suis d'accord, on veut sortir la voiture des villes, à tout prix, en tout cas dans Paris. Il y a un exemple, je trouve que c'est d'une violence extrême habitant Paris, mais bon, peu importe, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est normal. Mais la voiture est depuis 20 ans beaucoup moins polluante, elle le sera quasiment plus dans 10-15 ans. Hein, d'après, en tout cas en circulation. Donc pourquoi l'enlever alors qu'elle va être là tout de suite quasiment plus polluante
et qu'on peut inciter,
et qu'on peut inciter les Français plutôt à changer leur voiture. Alors Nicolas Hulot a annoncé quelques mesures, mais à mon avis elles seront peut-être pas suffisantes. Donc incitons plutôt à l'éco-conduite, à ce qu'ils changent leur voiture rapidement. Effectivement, favoriser l'autopartage et le covoiturage, mais ne sortons pas la voiture des villes, parce qu'on va la remettre forcément comme on a fait avec les tramways. On les a enlevés, on les a remis, et vous verrez que la circulation des voitures sera remise à Paris comme dans toutes les autres villes, parce qu'on aura besoin de ce moyen de locomotion individuelle, aujourd'hui et demain.
Yves Carra, merci beaucoup. Olivier Schneider, j'ai une question pour vous, et en rapport à ce qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'on sait combien d'automobilistes deviennent cyclistes? Parce que le problème, il est peut-être aussi là. Ce ne sont pas les automobilistes qui deviennent cyclistes, ce sont éventuellement les nouveaux habitants qui n'ont pas de voiture et quand ils s'installent dans une grande ville. Mais est-ce que vraiment, quand on est automobiliste, on devient cycliste? Parce que vous parliez effectivement de bonne santé, etc. Bien sûr, mais enfin, honnêtement, tout le monde ne peut pas aller au boulot en vélo. Moi, je ne le fais pas, par exemple, et il y a 10 km.
Oui, mais on peut être automobiliste, cycliste, marcher et prendre les transports en commun.
Pas au même moment.
Non, pas au même moment, mais dans la même journée, on peut le faire ou dans
je
la semaine.
C'est bon, allez, posez la question.
Allez-y, mais vous pouvez répondre, Olivier Schneider. Je vous en
prie. Du coup, mais votre question est très pertinente. Il y a un véhicule qui est très particulier, qui dans le code de la route est considéré comme un vélo et qui est un peu plus qu'un vélo, un peu différent, c'est les vélos assistance électrique. Votre question concernait ce qu'on appelle techniquement le report modal, c'est-à-dire les nouveaux cyclistes, quel était leur mode avant qui se déplacent à vélo. Et pour ce véhicule qui est le vélo assistance électrique, on sait que le report modal, c'est à plus de 50% d'anciens automobilistes ou d'anciens passagers de voitures hein, qui faisaient du covoiturage ou du court voiturage. Et donc, c'est pour cette raison-là que, depuis des années, la mairie de Paris subventionne l'achat de vélos assistance électrique et que Madame Royal a mis en place une aide nationale. Et vraiment, les chiffres sont très encourageants. Et justement, des personnes qui ont peur qu'elles vont pas y arriver parce qu'il y a des côtes, parce qu'il y a des jours où il y a du vent ou qu'il pleut, etc. Grâce au vélo assistance électrique, elles ont l'activité physique nécessaire pour leur santé sans avoir un certain nombre d'inconvénients du vélo.
Allez, tous en vélo électrique, 01 45 24 7000. Je voudrais qu'on rejoigne Géraldine. Bonsoir Géraldine, bienvenue sur Inter, on vous écoute.
Bonsoir. Alors moi, je réside à Clichy-la-Garenne en 92. Mmh. Mon lieu de travail est situé à Sainte-Foy en 93. Ce sont deux villes limitrophes. Il y a des stations de Vélib à proximité de chez moi et à proximité de mon lieu de travail. Donc j'aimerais aller travailler à vélo, mais je ne peux pas parce qu'il n'y a aucune piste cyclable ni à Clichy ni à Sainte-Foy. Donc c'est impraticable parce que c'est dangereux, il y a quand même beaucoup de circulation. Alors que je pourrais faire 3 kilomètres, donc 6 kilomètres par jour, ça me ferait beaucoup de bien pour ma forme physique, je ne peux pas.
Et vous ne pouvez pas, et donc vous y allez comment?
Ben, j'y vais en bus ou en voiture, ça dépend des jours.
En voiture pour aller dans une ville limitrophe, Géraldine. Vous êtes un mauvais exemple. Merci beaucoup de votre témoignage sur France Inter. C'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de pistes cyclables partout, évidemment, Christophe Navdowski. Mais voilà, c'est vrai aussi que dès qu'on quitte les grandes villes intramuros, on se retrouve, pas seulement à Paris, hein, on se retrouve dans la situation de Géraldine. Entre la ville et l'agglomération, il y a une énorme différence.
Oui, mais je pense que ce que pointe Géraldine, c'est aussi le défaut d'infrastructures cyclables et l'absence de volonté politique aussi d'un certain nombre de maires. De vouloir aussi avancer sur la question. Et donc, si Géraldine avait à sa disposition une infrastructure cyclable, elle utiliserait le vélo. Donc, l'enjeu, c'est aussi de faire en sorte qu'on développe ces infrastructures cyclables. Par exemple, pour ce qui est de l'Île-de-France, il faudrait qu'on ait un réseau vélo métropolitain et pas simplement parisien, qui permette donc aussi aux habitants de la petite couronne de pouvoir faire du déplacement, par exemple banlieue-banlieue, sans avoir à passer par Paris quand ils le font, comme ils le font actuellement, par exemple, en utilisant le transport en commun. Ou en tout cas donc de pouvoir avoir une alternative à l'usage de la voiture sur des trajets de courte distance. C'est effectivement pas normal qu'elle se retrouve dans cette situation. Il y a aussi, je dirais, un travail à faire du côté des élus à ce niveau-là.
Olivier Schneider, vous avez vu lever le doigt.
Oui, c'est bien parce que il y a eu une loi votée en 96, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui rendait depuis le 1er janvier 98 obligatoire de faire des aménagements cyclables quand on refaisait une voirie. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez une voirie qui a été refaite depuis 98, elle aurait dû être dotée de pistes cyclables. Sauf que, et je m'en entretenais avec ceux qui étaient auteurs de la loi à l'époque, c'est vrai qu'il suffit pas d'écrire quelque chose dans une loi pour que ça s'applique, mais c'est vrai qu'eux n'imaginaient pas que 19 ans plus tard ou 20 ans plus tard, on en soit là où on en est, mais non, vous avez dit on peut pas faire des pistes cyclables partout.
Pas immédiatement quand même, et pas tout de suite. Maintenant, après l'avenir, j'en sais rien.
Mais faut le prévoir parce que on ne sait pas de quoi sera fait demain. Mais par rapport à ce qu'on disait sur les avantages du vélo, est-ce que c'est le fait que ça, la sobriété spatiale, que ça prend peu d'espace, ou est-ce que c'est que ça ne pollue pas, que ça n'émet pas de CO2, que c'est silencieux? Il y a des études très sérieuses qui donc calculent ça dans 19 catégories différentes. De loin, celle qui écrase tout, c'est le gain pour la santé. C'est plus de 50% de ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire des gains.
Mais ça, on a bien compris, Olivier Schneider, que vous voulez mettre tout le monde sur un vélo. Et je pense que ça, pour le coup, c'est pas possible.
Mais au moins ceux qui le peuvent et créer les conditions pour ne serait-ce qu'aller à pied chercher sa baguette, parce qu'il y a des villes moyennes où c'est devenu compliqué par rapport ne serait-ce qu'aux services, etc.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Et Christelle, vous nous avez appelé, on vous répond, c'est vous qui avez la parole. On vous écoute, allez-y, bienvenue.
Oui, merci, bonsoir. Oui, alors moi, c'est ce que je disais aux personnes qui m'ont eu au téléphone. Moi, j'ai la chance d'habiter Paris, de travailler à côté de mon domicile. Donc, effectivement, je vais travailler en vélo. En plus, je suis dans un arrondissement où tout est quand même, il y a pas mal de choses faites pour les piétons. Mais ce qui serait bien, c'est quand même de pouvoir faire en sorte que les lieux de travail soient proches des lieux de domicile. Moi, je suis dans un domaine où je travaille en crèche, donc je suis dans une crèche municipale et j'ai des collègues qui ont plus d'une heure de trajet à l'aller et plus d'une heure au retour. Donc comment voulez-vous que ces personnes puissent venir en vélo? Certaines viennent en transport, d'autres préfèrent prendre la voiture parce que régulièrement, elles ont des problèmes de retard, il y a des problèmes sur la ligne, bref. Donc moi, je suis évidemment pour le vélo, je suis la première à utiliser le vélo pour tout, les choses quotidiennes et pour travailler, mais je peux comprendre que les gens prennent leur voiture, donc peut-être voir, essayer de faire en sorte que le lieu de domicile et le lieu de travail se réduisent, voilà.
Que le lieu de domicile et de travail se réduise, c'est évidemment que c'est un rêve pour tout le monde. Après, il y a la réalité qui est peut-être un peu plus compliquée, mais dans l'idéal, évidemment, pour nous
oui,
tous.
Oui, là, on est sur des questions d'aménagement du territoire et il est évident que l'étalement urbain fait aussi qu'il y a un éloignement de plus en plus important par rapport au lieu de travail. Il y a puis aussi la question du rééquilibrage. Il est évident que, par exemple, en Île-de-France, vous avez une concentration des emplois à l'ouest, une concentration de l'habitat à l'est. Il est évident qu'il faut maintenant donner la priorité à l'emploi à l'est de notre agglomération pour essayer de faire en sorte de rapprocher domicile et emploi et inversement de mettre plus d'habitat dans l'ouest parisien. Et puis, pour ce qui est de la question des crèches à Paris, il se trouve que j'étais en charge des crèches auparavant. On avait notamment fait un quota, on va dire, d'attribution de logements pour faire en sorte que ces personnes qui contribuent aussi au service public parisien soient prioritairement logées sur Paris de manière à réduire aussi leur temps de travail. Mais évidemment, ce n'est pas possible de le faire pour tout le monde.
Et des racks pour les vélos, notamment devant les entreprises, devant les endroits où travaillent beaucoup de gens et qui viennent
Oui, alors il y a des dispositions fiscales maintenant qui existent, mais ça, Olivier Schneider peut-être pourrait en parler mieux que moi pour les entreprises, par exemple, qui mettent à disposition de leurs salariés des flottes de vélos. Et puis, pour ce qui est des racks, on a fait un travail, par exemple, à Paris, de tous les grands pôles générateurs d'emplois, et on essaie de mettre des arceaux vélos en plus grande quantité devant les grands pôles, que sont notamment les grands ensembles de bureaux, mais aussi les gares, bien évidemment, ou encore les établissements publics.
Mais si je peux intervenir par rapport à votre auditrice, encore une fois, ça prouve bien que on peut pas aller trop vite en matière d'élimination de la voiture, notamment dans Paris et dans les autres villes, c'est moins fort, parce qu'il y a il y a des tas de personnes qui n'ont pas d'autres moyens aujourd'hui, et que ce qui se passe, dans l'année qui vient de se passer, est préjudiciable pour les Parisiens, mais pour beaucoup de Franciliens, parce que...
Vous êtes en train de parler de la rue de Rivoli, c'est la grande obsession parisienne, pas que les gens qui habitent à Nantes ou à Rennes ne se sentent pas concernés.
Oui, pas que la rue de Rivoli, c'est-à-dire de tous les quais qui sont fermés ou qui sont sur une seule voie, plus la rue de Rivoli, plus les parkings en moins, plus etc. Donc voilà, depuis quelques années. Mais il y a des personnes qui souffrent réellement de cette situation. Alors Paris n'est pas la France, nous sommes d'accord, mais ça en est un symbole, et je crois que c'est le symbole peut-être de ce qu'il faut pas faire, en tout cas pas à cette vitesse-là.
On n'est pas dans une politique d'élimination, de la voiture, on est dans une politique de rééquilibrage de l'espace public. La voiture représente 11% des déplacements à Paris et elle occupe quasiment 50% d'espace public. On est donc dans une logique de partage de l'espace public, typiquement ce que l'on fait actuellement avec le projet de la piste sur les berges dans le 16e arrondissement. Elle procède de cette logique-là, c'est-à-dire une voie pour les vélos, une voie pour la circulation des modes motorisés, dans une logique de partage de l'espace public. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les seuls modes motorisés qui est des voies express. Donc voilà, on est dans cette logique-là. Par le passé, les politiques publiques d'aménagement ont donné tout l'espace au mode motorisé parce que c'était l'époque où on considérait que tout le monde devait se déplacer avec un véhicule individuel. On sait ce que ça a produit. Ça a produit de la congestion et de la pollution. Et donc, nous sortons de ce système-là. Et ce qu'il faut donc désormais, c'est passer à l'ère de la multimodalité, dans laquelle la voiture gardera une place, mais elle ne sera plus le mode dominant. Et donc, il faut aussi pouvoir organiser cette multimodalité en faisant, par exemple, des parkings relais aux portes de Paris. On l'a proposé à Mme Pécresse. En faisant de la multimodalité avec le vélo, etc.
Tout ce que vous dites, c'est très bien, mais
ce que vous avez fait en un an,
c'est quand même d'une violence extrême et d'une rapidité.
C'est précisément ce que nous faisons à Paris.
Un peu trop brutal. Mais Paris n'est pas la France, et je suis d'accord avec vous.
Nous rattrapons un retard. Paris est en retard par rapport à d'autres grandes capitales dans le monde est très en retard.
Olivier Schneider, vous qui justement circulez à vélo, qui avez des adhérents qui circulent en vélo un peu partout, est-ce qu'on est quand même en ce moment, et je ne parle pas seulement de Paris, mais de toutes les grandes villes en France, on n'est pas dans une révolution, on est dans la continuité de quelque chose, non ? Ces progrès du vélo quand même avancent peut-être trop lentement pour vous, mais ils avancent depuis quoi ? Au moins les années 90.
Le rebond, en effet, c'est au moment des grèves en 95, etc. C'est là qu'il y a eu le rebond... L'usage qui était arrivé quasiment à moins de 1%.
À Paris, les premiers plots, je parle sous votre contrôle, monsieur Carra, mais les premiers plots contre les voitures, c'est Jacques Chirac, maire de Paris.
Oui, tout à fait.
Donc on
tout
est à peu près dans cette période.
Premier aménagement cyclable, Jean Tiberi.
Tout à fait. Bon. Mais on a une progression du vélo dans toute la France, mais de manière quand même très inégale. C'est-à-dire qu'on voit que finalement, les gens se mettent au vélo comme solution de repli. Pas parce que on a conçu des schémas cyclables, qu'on a mis des arceaux, qu'on a mis des services vélos, etc. Mais à l'inverse, parce que la congestion et l'inefficacité en termes d'occupation de l'espace du trafic automobile a fait que c'était trop difficile de se déplacer en voiture, coûteux ou inadapté en transport en commun. Et donc finalement, le vélo progresse dans les grandes villes et dans les métropoles, là où il est la solution, malgré les carences, la meilleure. Et dans les villes moyennes, et c'est très dommage parce qu'elles sont plus petites, donc s'y déplacer à vélo serait plus pertinent, vu que c'est des distances plus petites à franchir. Comme c'est facile d'aller partout, même aller chercher sa baguette, pour être caricatural, à vélo, le vélo se développe beaucoup moins dans les villes moyennes. Et dans les territoires ruraux, où il aurait un certain rôle aussi, c'est devenu totalement inenvisageable. Et ça, nous en sommes conscients.
Patrick, sortez-nous donc de la région parisienne et on vous écoute. Bienvenue sur Inter.
Oui, bonjour. Alors, je ne suis pas en région parisienne.
Justement.
Non, pardon, excusez-moi. Donc, merci de prendre mon témoignage. Effectivement, je fais partie des 55 millions de Français qui habitent ailleurs. Mais j'ai habité la région parisienne et j'en suis parti avec une petite famille, entre autres, puisque la ville n'était pas bien aménagée pour le vélo. Et je soutiens à fond les efforts qui sont faits aujourd'hui par la ville, mais avec du retard. Donc, moi, mon petit témoignage, c'était aussi sur l'étranger. J'ai eu l'occasion d'aller un petit peu en Allemagne, en Angleterre. Récemment, c'était en Allemagne. Et dans le pays le plus riche d'Europe, et on y voit d'ailleurs des très belles voitures, en centre-ville, on voit de rares voitures qui acceptent tout à fait de ne pas pouvoir d'ailleurs traverser le centre-ville. Par contre, on voit des milliers de cyclistes, mais heureux, de tous les âges, sur des aménagements mais qui nous paraissent inouïs ici en France, avec de quoi stationner, en sécurité, etc. Et ça, on le voit hélas dans les pays qui n'ont pas la météo la plus favorable aussi, il faut le dire, parce que souvent un des arguments, c'est que voilà, le vélo, quand il pleut, etc. Mais ça, on le voit en Belgique, en Angleterre, même en Italie. Et voilà, je pense que c'est caricatural de dire que les automobilistes peuvent devenir difficilement des cyclistes. Je suis automobiliste la plupart du temps, par obligation. Je suis aussi cycliste et nous sommes tous les cyclistes sont aussi automobilistes. Donc il faut arrêter d'opposer ces deux modes. Et je voulais compléter par une petite question peut-être à l'intervenant de l'Automobile Club.
Yves Cara, on
est tous d'accord sur le fait que la population, notamment les jeunes, ont besoin de davantage d'entretien physique. On est tous d'accord sur la part, bon, on va pas mégoter sur la part exacte de l'automobile dans la pollution atmosphérique. Elle a sa part conséquente. En plus, nous avons pris des engagements sur la réduction des gaz à effet de serre au niveau national, au niveau international. Aujourd'hui, tant que la voiture est principalement à motorisation par hydrocarbures, donc rejetant des gaz à effet de serre, on n'a pas le choix. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez prêt à la multimodalité, ok, il faut de la place pour tout le monde, mais ça n'engage pas à grand-chose de dire ça. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, si on veut respecter nos objectifs de réduction, de donner moins de place à la voiture. Et certes, il faut du courage politique. Aujourd'hui, on est très en retard sur ce courage politique, de la part des collectivités, de la part de l'État, des régions. Quand on fait l'effort d'aller voir un petit peu à l'étranger comment ça se passe, on voit qu'on a extrêmement, on a beaucoup de retard. On est prêt, des collectivités sont prêtes à dépenser des millions pour accueillir en tant que l'étape le Tour de France, mais la même somme, même pas le quart, n'est pas dépensée en aménagement cyclable pour sécuriser, pas simplement le vélo, mais tous les modes alternatifs à la voiture individuelle. Et vous avez raison tout à l'heure de faire la différence entre l'autosolisme et le partage de la voiture. Merci.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Patrick. Qui vous a interpellé, Yves Carac? Est-ce que vous avez envie de lui répondre?
Que la voiture devient de moins en moins polluante, ça c'est sûr, elle ne le sera plus du tout dans quelques années, ça je le dis. Donc c'est pour ça que le sujet de la pollution, effectivement, il faut la réduire. On peut la réduire par, je l'ai dit aussi, par une vraie éco-conduite. On gagne 15 à 20% de pollution, l'éco-partage. On peut aussi fluidifier la circulation avec des logiciel avec de l'intelligence artificielle reliée aux caméras de surveillance, ça fluidifie de 10%, ça a été déjà testé dans des villes chinoises, donc il y a plein de choses. Mais de toute façon, on est tout à fait d'accord, hein. La voiture doit avoir une place différente en ville, pas uniquement comme elle l'a été jusqu'à maintenant, une place quasiment entièrement pour elle. Mais à Lyon, par exemple, une ville que je connais très très bien, ça se passe parce que c'est ma ville d'origine, ça se passe très très bien. Et un exemple d'aménagement où on prend plus de temps pour que la voiture ait toujours la même place et qu'on puisse en même temps en faire pour les piétons et les cyclistes, c'est sous la colline de la Croix-Rousse. On a creusé un deuxième tunnel. Plutôt que de réduire la place de la voiture dans le tunnel qui existait, pour pouvoir relier le Rhône et la Saône et que les cyclistes et les piétons puissent passer. Donc on peut tout à fait cohabiter, mais il faut peut-être prendre plus de temps et que ce soit pas trop brutal, mais on est d'accord. Hein. Il faut effectivement que cette voiture, aujourd'hui, ou en tout cas qui sera un moyen de déplacement individuel, quel qu'il soit, de quatre roues non polluants, connectées ou pas, ait toujours sa place dans les villes, qu'on puisse quand même y accéder sans que ce soit quasiment impossible.
Et cohabiter aussi peut-être avec les transports en commun, c'est le sens de votre question. François, bonsoir, bienvenue sur Inter.
Bonsoir. Oui, moi je me demande pourquoi depuis le début de cette émission, vous ne parlez pas du développement sérieux des transports en commun dans toute l'agglomération parisienne. Tout le monde ne peut pas prendre la voiture ni le vélo et il faut développer les transports en commun. 24 heures sur 24 comme dans d'autres villes.
La réponse, Christophe Najdowski, c'est aussi que ça ne dépend pas de vous, c'est ça, que dès lors qu'on sort de Paris, c'est plus
l'organisation des transports en commun en Île-de-France relève de la région et donc du STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, qui est présidé par Valérie Pécresse, qui a donc la main sur ces questions. Paris finance 30% des contributions publiques du STIF, mais c'est la région qui a la main, donc nous essayons de porter aussi le message que vous portez, c'est-à-dire celui du développement de l'offre de transport en commun, parce que c'est absolument nécessaire. Alors, il y a le projet du Grand Paris Express, mais qui ne sortira de terre que dans 5 ou 10 ans. Et donc, il faut inlassablement investir dans de nouveaux systèmes de transport collectif, les tramways, les métros, la rénovation des trains, la rénovation des infrastructures aussi, qui est très importante, parce que les nombreuses pannes à répétition sont aussi le résultat d'un sous-investissement pendant des décennies dans l'infrastructure ferroviaire en Île-de-France. Donc, c'est absolument nécessaire. Et surtout, ça doit nous permettre aussi de développer cette fameuse multimodalité. Vous pouvez, par exemple, faire une partie de votre trajet en train ou en métro ou en tramway, et puis ensuite terminer votre trajet, par exemple à vélo, sur les 2 kilomètres qui restent, plutôt que de reprendre, par exemple, une correspondance dans laquelle vous auriez d'ailleurs beaucoup à marcher et qui ne ferait pas, je dirais, autant de gains de temps que cela. Donc on peut aussi développer cette multimodalité dans laquelle le vélo sera une partie du trajet,
c'est
et non
très,
pas
très
la totalité
urbain, ceci dit,
du trajet.
Les gens qui nous écoutent et qui n'habitent pas dans une grosse agglomération doivent nous trouver tous extrêmement parisiens et surtout extrêmement urbains, en fait. C'est une méthode qui est très urbaine, ce que vous décrivez là.
C'est peut-être, effectivement, ouais. J'ai peut-être ce prisme, évidemment, de parisien, bien évidemment, mais je pense que c'est quelque chose qui est valable, en tout cas pour toutes les grandes métropoles, pour toutes les grandes villes.
Une remarque, Olivier Schneider?
Oui, la seule façon de développer du transport en commun efficace dans un milieu moins dense que le milieu francilien parisien, c'est de faire du rabattement, et notamment à vélo. C'est-à-dire que dans un territoire peu dense en termes d'habitation, il faut que les points d'arrêt du transport qui se doit efficace, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui puissent rejoindre l'arrêt, et c'est en faisant le premier kilomètre ou les premiers 2 kilomètres à vélo qu'on pourra remettre du transport en commun. Il est inenvisageable économiquement de faire des lignes de bus qui desservent tous les quartiers et en même temps, que ce soit le vieillissement de la population ou la desserte scolaire et autres, font que ces transports en commun sont indispensables. Donc le vélo est vraiment plus une solution qu'un problème.
Aujourd'hui, il y a 83% des déplacements des Français qui sont faits en véhicule thermique individuel. Donc, c'est vrai que quand on va à Royan, Montélimar, l'île de l'Hérault ou autre, vous ne vivez pas sans voiture. Donc, c'est un fait. Alors, on peut effectivement peut-être prendre le vélo de temps en temps, mais sans voiture, vous n'avez pas de vie sociale, vous n'allez pas travailler, vous n'avez pas de transport en commun adapté.
Vous êtes venu en vélo, vous, Olivier Schneider, ou pas?
Là, je suis venu à pied d'ici les Moulineaux pour visiter le nouvel aménagement le long de...
Et vous, monsieur Najdowski?
Moi, j'ai été prudent avec l'orage qui menaçait, j'ai pris le métro.
Vous savez qu'il y a des villes, comme Londres, par exemple, qui, pour essayer de décongestionner, leur font aussi des pistes cyclables et qui commencent à augmenter, mais ont surtout mis un péage à l'entrée, au moins pour qu'on commence comme ça et qu'on laisse de la place. Et voir un peu ce qu'on peut faire de cette place. Est-ce qu'on sait ce que ça a donné réellement? Parce que moi, j'ai pas le sentiment, par exemple, que Londres soit une ville moins décongestionnée aujourd'hui, avec plus de vélos à l'intérieur, parce que les voitures ont plus de mal à y rentrer.
Non, d'ailleurs le modèle londonien est un modèle particulier de péage, hein, puisque c'est sur une zone très restreinte, alors que bon, il y a plusieurs modèles de péage, mais c'est pas le sujet.
Mais il y a peut-être moins de voitures individuelles, mais il n'y a pas plus de vélos.
Mais
c'est pas qu'une question de météo.
Par exemple, dans les classements internationaux qui sont faits par les grands bureaux d'études qui regardent les embouteillages, Londres est plus embouteillée que Paris, par exemple. Donc la question du péage londonien n'a pas résolu cette question, loin de là.
Et alors, mais pourquoi les gens ne se sont pas mis sur des vélos à ce moment-là? Et je vous pose la question parce que pourquoi les gens se mettraient sur des vélos ici à Paris, par exemple, ou dans n'importe quelle grosse ville, si c'est plus difficile de circuler dans le centre-ville?
Alors, parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure, mais ceci étant, depuis quelques années, vous avez à Londres le développement de ce qu'on appelle les super cycle highways, qui sont des autoroutes à vélo et qui drainent un nombre considérable de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de cyclistes au quotidien. Allez voir sur Internet les vidéos, c'est très parlant. Les images sont très parlantes et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la politique vélo est en très fort développement à Londres. Donc, ce qui est possible à Londres est possible aussi à Paris.
Voilà, bah écoutez, on aura l'occasion largement, probablement, d'en reparler à l'occasion d'une nouvelle polémique, d'une nouvelle piste cyclable ou d'une nouvelle idée. Allez savoir, je vous remercie tous d'avoir participé au Téléphone Sonne sur France Inter.